Que le Seigneur soit béni. Nous allons ouvrir le Saint-Livre et nous croyons que le Seigneur savait qui ce soir viendrait dans sa maison. Vous le savez? Combien de personnes faut-il dans une église pour que Dieu parle? Combien?
Deux ou trois.
Alors nous allons faire une première lecture dans Hébreux, chapitre 10, au verset 19. Juste le verset 19, même si la suite serait très utile. Hébreux, chapitre 10, verset 19. Face à toute l'œuvre de Jésus-Christ, il y a un encouragement. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. Nous avons tous, à cause du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Alors on va voir l'histoire d'un homme qui a fait une expérience alors qu'il servait tous les jours dans le sanctuaire. Dans le psaume 73, c'est un des psaumes moi, qui m'a le plus interpellé par rapport à ma communion avec Dieu et par rapport au fait qu'on puisse être dans la maison de Dieu sans être en communion avec Dieu. Psaume 73, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se détourne de leur côté, il avale l'eau abondamment et il dit « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il ? » Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes ses œuvres. Amen. C'est un psaume merveilleux. Si vous l'avez médité plusieurs fois, vous vous rendez compte que Dieu a des choses à nous dire au travers de ce texte. Alors, il y a deux façons de lire la Bible, vous le savez. Jacques dit qu'il y a ceux qui regardent, qui lisent et qui oublient, et puis il y a ceux qui plongent leur regard dans la parole, et ceux-là seront heureux dans leur activité. Il y a deux façons de lire la Bible, une façon superficielle et une façon profonde. Et je vous encourage, même pour vous, à méditer ce psaume au-delà de ce que l'on va partager ce soir, car il y a une chose que Dieu veut, c'est que nous soyons heureux dans notre activité. Je ne sais pas quelle est votre activité, mais est-ce que c'est important pour vous d'être heureux dans votre activité? Oui, c'est important parce que Dieu veut que nous soyons heureux au-delà de toutes nos craintes, au-delà de toutes nos faiblesses, au-delà de tous nos manquements, etc. Il peut y avoir un bonheur, celui de savoir où on en est vraiment avec le Seigneur, savoir ce que Dieu a à nous dire. Car ce soir, moi je sais que bien sûr qu'on n'est pas nombreux, mais je crois quand même qu'au-delà du fait que l'on soit ou pas nombreux, Dieu sait qu'il y a dans l'Église. Et Dieu sait ce qu'il a besoin de nous dire. La Bible nous demande de ne pas nous tromper vous-même par de faux raisonnements. C'est ce que Asaph a fait. Oui, Jésus explique qu'on peut se tromper. Jésus, et quand on voit combien de chrétiens se trompent, quand on voit la dernière église dans l'Apocalypse, comment elle se trompe, ça vaut la peine de bien écouter. Nous voyons un homme qui était à deux doigts de s'effondrer. Je ne sais pas si vous avez compris le psaume. À deux doigts de chuter. Est-ce que ça peut arriver qu'un chrétien qui aime Jésus puisse se trouver dans cette situation où il va se retrouver à deux doigts de chuter, à deux doigts de tomber, à deux doigts de s'épuiser? Et on voit des chrétiens qui sont épuisés, fatigués et qui restent continuellement fatigués, continuellement épuisés. Ils viennent à l'église, on peut aller à l'église, et ils restent épuisés, fatigués, malheureux. Ils se regardent furtivement dans le miroir de la parole et ils n'arrivent pas à saisir ce que l'on vient de chanter, à savoir que Dieu a une parole pour vraiment nous parler. On peut venir à l'église et vivre d'impressions. Je le vois, moi, même dans l'assemblée, des gens qui constamment, j'ai l'impression que, vous voyez, ça fait mal au cœur. Vous voyez, on a tout à l'heure entendu dans les chants ces Hébreux qui avaient la possibilité d'être dirigés et qui voulaient faire à leur façon parce qu'ils pensaient qu'eux, ils savaient. On peut vivre d'émotions. On peut vivre d'émotions. On va le voir. On peut vivre de sentiments et pas de convictions. Et mes frères et sœurs, croyez-moi, si vous voulez que Dieu vous bénisse, il faut que nous apprenions tous à marcher par conviction et pas par émotion. C'est ce que Jean écrit, je veux que vous sachiez, non pas que vous sentiez, il le dit plusieurs, je veux que vous sachiez que, je veux que vous sachiez ceci, etc., etc. C'est pas par hasard que le Dieu a voulu que ce psaume soit écrit, que le témoignage d'Asaph soit donné, parce que c'est un témoignage en fin de compte, c'est un chant, mais c'est un témoignage. Est-ce qu'on pourrait témoigner au travers de ce psaume? Oui, quelqu'un pourrait témoigner son expérience. La façon dont il a commencé à se tromper et la façon dont Dieu l'a béni. C'est ça que nous avons besoin de savoir. Comment ça se passe? Comment on peut commencer à chuter? Et comment Dieu va-t-il s'y prendre pour nous bénir? Parce qu'on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri de la chute. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. C'est écrit. Donc, ce psaume nous enseigne que même si on s'appelle Asaph, et si on est le grand responsable de la chorale de Jérusalem, eh bien, on peut tomber dans l'épuisement. Mais aussi, on peut passer de l'épuisement à une véritable bénédiction par la foi. C'est ça que Dieu veut. Ce psaume, il n'a pas été écrit pour qu'on critique Asaph. Quelqu'un pourrait dire, mais tiens, David s'est trompé en choisissant Asaph. Pourquoi il a pris ce gars pour s'occuper de la chorale de Jérusalem, alors que franchement, ce n'était pas le top niveau quand il a écrit le psaume. Eh bien voilà, moi je crois que Dieu veut que nous comprenions que qui que nous soyons, nous pouvons nous tromper, quel que soit le service auquel Dieu a pu nous appeler. Asaph était un homme de Dieu. La preuve, c'est qu'il y a plusieurs psaumes. Vous l'avez lu, le psaume 74, c'est lui qui l'a écrit aussi. Je ne sais pas combien il en a écrit. Il en a écrit plusieurs. Il avait été choisi par David. Après vous savez, quand l'arche a été ramenée à Jérusalem, c'est David qui a discerné dans le cœur de cet homme cette véritable spiritualité. Donc, c'était un homme inspiré. La preuve, puisque les psaumes qu'il a écrits sont dans la Bible. Des fois, on me dit, oui, mais il y a des gens qui ont chuté, peut-être ils n'étaient pas convertis. Mais lui, je peux vous dire qu'il était vraiment converti. Et malgré le fait qu'il soit vraiment un homme de Dieu, eh bien, il a passé des moments difficiles. Il était de la tribu de Lévi, ce qui le destinait à servir Dieu toute sa vie. C'est une bénédiction d'être appelé à servir Dieu. Est-ce que c'est une bénédiction d'être chrétien et d'être appelé à servir Dieu? Bien sûr que c'est une bénédiction. Que David se soit intéressé à lui nous prouve que ce garçon avait vraiment quelque chose de particulier et que Dieu pourrait faire quelque chose avec lui. Enfin, on n'a pas le temps de lire tous les textes, mais il y a plusieurs textes où nous voyons que cet homme a été choisi parce qu'il avait, reçu quelque chose de la part du Seigneur. Pour composer des psaumes qui sont dans le canon des Écritures, je pense qu'il faut avoir été rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez le calculer comme vous voulez. Si les psaumes d'Asaph sont dans la Bible, c'est que cet homme a été rempli de la part de Dieu. Donc, même quand il est mort. On pourrait quand même lire un texte. Après sa mort, on parlait de lui, non pas comme étant un chantre, mais comme étant un prophète. Regardez dans 2 Chroniques au chapitre 29. C'est quand même intéressant. Comment on parlera de vous après votre mort? Tiens donc. Comment on parlera de vous après votre mort? Ça vous intéresse ou non? 2 Chroniques 29, 30. Vous voyez? Regardez. Puis le roi Ézéchias et les chefs d'Hérolévites de célébrer l'Éternel avaient les paroles de David et du prophète Asaph. Vous voyez, ils en parlent. Ils en parlent comme étant un prophète qui avait composé des cantiques, non pas comme un chantre, mais véritablement comme un prophète. C'est pour vous dire combien cet homme a été béni, même après sa mort, qu'on parlait de lui en bien. Mais voilà, là nous sommes dans un psaume, et qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme qui commence à mélanger le spirituel et l'émotionnel. On le voit au début. Vous y êtes au psaume? Vous voyez, il dit des choses vraies. Oui, Dieu est bon pour Israël. Est-ce que vous le croyez que Dieu est bon pour l'Église? Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur, etc. Et d'un côté, qu'est-ce qu'il dit? Mon pied était sur le point de fléchir. Je portais envie aux insensés. Alors, imaginez-vous cet homme. C'est le responsable de la chorale. Il amène la bénédiction sur tout le peuple de Dieu par les chants. Et pourtant, alors qu'il est tous les jours dans le temple, tous les jours en train de louer Dieu, il est en train de chuter. Tout en confessant des choses extraordinaires, il est en train de chuter. Comme quoi ça nous fait réfléchir cette affaire. Alors la musique, vous savez que moi j'ai mes idées par rapport à la musique, mais je pense que la musique c'est une chose. Et le fait de connaître Dieu, c'est autre chose. Le fait de chanter, c'est une chose. Et le fait d'avoir une véritable communion avec Dieu, ça n'est une chose. Je crois que Dieu a institué la musique et les chorales. Est-ce que vous croyez que Dieu veut qu'il y ait de belles chorales? Est-ce que vous croyez que Dieu veut qu'il y ait de la belle musique dans les églises? Oui. Moi, je crois que Dieu a voulu ces choses. Je crois que dans le ciel, il y aura énormément de chorales, de belles chorales, de millions de gens. Enfin, ça devrait quand même donner quand même. Avec tous avec des voix parfaites, ça devrait être pas mal. Bon, mais en attendant le ciel, nous savons que si Dieu a institué la musique, les chorales, ce n'est pas pour remplacer la connaissance de sa présence. Et là, il y aurait beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire. Mais ce psaume, pour moi, m'a montré que la musique, les chorales ne pouvaient pas remplacer l'importance de connaître sa véritable présence. Béni soit Dieu. Je crois que la louange, la musique, les cantiques devraient être le résultat de notre communion avec Dieu. Parce que je suis en communion avec Dieu, j'ai envie de chanter. Parce que je suis en communion avec Dieu, j'ai envie de participer à la musique, à la chorale de l'église, ou j'ai envie de chanter à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce n'est pas parce que je chante, ce n'est pas parce que je fais partie d'une chorale que je connais véritablement le Seigneur. Mais bien sûr que quand nous connaissons Dieu, vraiment quand on le connaît, au milieu de l'adversité, au milieu de la bénédiction, au milieu de tout ce que l'on traverse, est-ce qu'on peut chanter des cantiques? Ben oui, on peut chanter dans la bénédiction, on peut chanter dans l'épreuve, et Dieu a créé la musique et les cantiques pour qu'on puisse le célébrer en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Mais le problème vient lorsque l'on chante pour chanter, lorsque l'on commence à prendre l'habitude de chanter en pensant que parce que l'on chante, ça va, alors qu'on voit que son problème a commencé quand il a regardé les incroyants. Vous avez vu que tout d'un coup, il se met à regarder, tiens, les incroyants, ils prospèrent. Ah, ça, c'est une affaire. Ça. Les incroyants, vous avez vu, je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Il est là, il est inquiet parce qu'il regarde les incroyants. Vous savez, quand la loi de Moïse, c'était « si tu m'obéis, je te bénirai ». C'est écrit. Et c'est vrai. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon l'esprit, vous vivrez. C'est une vérité, ça. Qu'il y a une bénédiction à obéir à Dieu. Et lui, il devait se dire, moi je suis tous les jours dans le temple, je sers Dieu tous les jours, etc., etc. Donc, je vais être béni. Et qu'est-ce qu'il se fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il loue Dieu et en même temps, il regarde les incroyants. Ils sont heureux, ils prospèrent, ils sont bedonnants. À l'époque, c'était certainement une bénédiction d'avoir de l'embonpoint. Enfin, vous avez vu ce qui est écrit. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser? Parce que le problème, il est là. Qu'est-ce qu'il faut penser? Mettre en parallèle la spiritualité, la prospérité. Donc, si je suis spirituel, je ne peux pas avoir d'adversité. C'est ça? Demandez à Joseph. Mais c'est une pensée qui circule, ça. Si je suis spirituel, je ne peux pas avoir d'adversité. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Lui, il a pris des paroles de l'Écriture, et c'est pas normal. Moi, je suis là, je te sers tous les jours dans le temple, et je suis dans l'épreuve, et les pécheurs, ils prospèrent. Non, mais c'est un truc de fou. Qu'est-ce qui se passe? En tous les cas, ce n'est pas biblique. On peut être dans l'obéissance et être dans l'épreuve. Si on n'a pas compris ça, on ne s'en sortira jamais. Oui, on peut servir Dieu tous les jours dans le temple, parce que c'est quand même impressionnant ce psaume. Quand vous faites une étude sur la vie d'Azaph, et vous allez voir que c'est impressionnant. Cet homme de Dieu, cet homme vraiment extraordinaire, je vous l'ai dit, on l'appelait un prophète après sa mort, eh bien, il regardait aux incroyants. Je ne sais pas si ça vous intéresse de regarder au bonheur des incroyants. Si les croyants sont plus prospères que vous, sont plus heureux que vous, est-ce que ça vous préoccupe ça? Ça vous préoccupe? Est-ce que quelqu'un, tiens, mon voisin, il n'est pas chrétien, mais il est plus riche que moi. Est-ce que ça vous fait quelque chose? Non, bon, c'est bien. Mais, voyez, on peut louer Dieu, mais c'est important. Ce psaume, je vous assure, moi, il m'a parlé, ce psaume. Hein. On peut louer Dieu, et en même temps, vous voyez qu'il y a de la colère dans son cœur qui commence à grandir. Il devient envieux. Vous voyez, c'est quand même... Ce psaume, il est sérieux, ce psaume. Il vous montre comment on peut se tromper en louant Dieu tout en commençant à voir quelque chose qui ne va pas dans son cœur. Il est là, il loue Dieu. C'est la vérité, oui, Dieu est bon pour Israël. Et en même temps, il s'enfonce dans un mensonge parce qu'il dit des choses. Les premiers versets, écoutez, c'est des choses qui sont totalement fausses. Il loue Dieu et il se met à se mentir à lui-même. Même au verset 21, il est dit « Mon cœur s'aigrissait ». Voyez un petit peu où il en est. Il est dans le temple, il aime Dieu, son cœur commence à se mentir à lui-même et son cœur commence à s'aigrir. Il commence à remettre tout en question. « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Tu bénis ceux qui se moquent de toi. Je suis frappé tous les jours. » Voyez, et pourtant, il était dans le temple. Et il louait le Seigneur. Parce que l'amertume, quand ce n'est pas réglé, ça amène... La jalousie. Il était jaloux des impies. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Lui, le grand prophète Azaph. Et le bilan est très grave. Qu'est-ce qu'il dit? Mes pieds allaient fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Vous voyez que c'est grave la jalousie. Des fois on dit, oh c'est pas grave la jalousie. Mais c'est très grave la jalousie. Parce que cet homme de Dieu qui s'est ressaisi et qui est devenu un prophète, puisque c'est écrit, a failli chuter. Et heureusement qu'il y a des gens qui comprennent qu'on peut s'approcher de Dieu, qu'il y a une libre entrée dans le sanctuaire. C'est pour ça que, qui que vous soyez, il y a une libre entrée dans le sanctuaire. Béni soit le Seigneur. Est-ce que ça vous rassure? Eh oui. Et plus il réfléchit, plus ça s'aggrave. Moi, ce psaume m'a amené à la réflexion. C'est le verset 16 qui m'a amené à la réflexion. Parce que je voyais des chrétiens qui réfléchissaient et qui s'enlisaient de plus en plus. Et c'est ce qui est arrivé. Vous avez vu le verset 16? Quand j'ai réfléchi là-dessus, pourquoi faire? Pourquoi il réfléchit? Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour, qu'est-ce qui est écrit? Pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Quand j'ai réfléchi, est-ce que c'est important de réfléchir? Mais oui, la Bible dit même que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. C'est une bénédiction de réfléchir. Et pourtant, plus il réfléchissait, plus il s'enfonçait. Jusqu'au jour où il est entré dans le sanctuaire de Dieu. Mais quelqu'un pourrait me dire, madame, mais dans le sanctuaire de Dieu, il y était. Il y était tous les jours. Est-ce qu'il n'y était pas tous les jours? Oui, il y était. Alors on voit bien qu'on peut être dans le temple de Dieu et ne pas s'approcher de Dieu. Et que la structure matérielle, c'est une chose, mais que le cœur, c'est autre chose. Et ça, je crois que ça vaut la peine d'y réfléchir. D'ailleurs, des fois, on dit aux gens, venez à l'église, ça ira mieux. Alors, est-ce que c'est vrai? Eh oui, parce qu'il y a des gens, c'est pas parce qu'ils vont venir à l'église. Moi, je me souviens un jour de cette dame, ça s'est passé ici, c'était à la sortie d'une réunion, je ne sais plus quel jour c'était de la semaine, et elle disait, alors oui, tu m'as dit que si je venais à l'église, ça irait mieux. Et ça fait, je ne sais pas combien de fois que je viens, ça ne va pas mieux, du tout. Et heureusement que je suis arrivé, et j'ai dit à cette dame, j'ai dit, mais écoutez, c'est pas de venir physiquement à l'église qu'il faut. Et cette femme, elle venait, elle s'asseyait, elle écoutait pas. Elle pensait, vous voyez, comment les gens peuvent être superstitieux, comment les gens peuvent être tordus. En tous les cas, Asaph a failli se faire piéger, parce qu'il était tous les jours dans le sanctuaire physique, tous les jours. Mais il se sentait comme un hypocrite. D'ailleurs, il le dit, hein. C'est au verset 15 qu'il le dit. Hein. Vous voyez, si je disais, je veux parler comme eux, je trahirais la race de tes enfants. On voit qu'il est en train de basculer dans l'hypocrisie. L'activisme, c'est bien l'activisme, est-ce que... L'activisme. Quand quelqu'un vient de se faire baptiser, est-ce qu'il faut lui dire, vas-y, sers Dieu, trouve ta place? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas plutôt l'amener à connaître davantage le Seigneur? Vous voyez l'activisme? Ça peut nous amener. Hein, le sanctuaire, c'est un endroit, normalement, où on choisit de vouloir chercher la présence de Dieu. Asaph avait pris l'habitude d'aller à l'église et de ne pas chercher la présence de Dieu. Et pourtant, il était dans la musique, dans la louange, dans l'adoration, à fond là-dedans, responsable de ça. Mais voyez, c'est une chose d'aller à l'église, c'est une chose, ça n'est une autre, de percevoir la présence de Dieu dans l'église, de percevoir le Dieu qui a institué l'église, le Dieu qui a institué ces réunions dans lesquelles nous nous retrouvons. Vous voyez, on est dans une réunion des assemblées de Dieu, bon, d'accord, mais est-ce qu'on est conscient que dans une réunion, la présence de Dieu peut se manifester? La présence de Dieu, c'est autre chose que chanter quelques cantiques. C'est véritablement dire, je veux entrer dans le sanctuaire. Je veux pas me comporter comme une bête. Parce que quand on regarde ce psaume, vous avez vu au verset 22, quand il dit ce qu'il était, j'étais stupide, sans intelligence, j'étais à l'égard, comme les bêtes. Alors que c'est un enfant de l'Alliance, puisque c'est quand même quelqu'un. Et il dira, par rapport à son amertume, son aigreur, sa jalousie, il va dire « j'étais comme les bêtes ». Pourquoi ? Parce qu'il s'est laissé entraîner par des pensées de jalousie, parce qu'il a commencé à regarder les autres. Vous voulez vous en sortir ? Ne regardez pas les autres. S'ils réussissent, tant mieux. Si des païens réussissent, ben, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux si les païens réussissent. Ce qui est important, c'est pas ça. C'est pas que les païens réussissent. Ce qui est important, c'est que vous puissiez dire ce qu'il a dit à la fin. Cependant, je suis toujours avec toi. Ça, c'est important. Parce que les païens, ils réussissent. D'accord, ils réussissent. Mais à quoi ça sert la réussite matérielle si on rate son éternité? À quoi ça sert? Et là, il commence à dire, mais dans le sanctuaire, j'ai compris quelque chose. Que Dieu ne m'abandonnerait jamais. J'ai compris que Dieu serait toujours avec moi. Vous avez vu tout ce qu'il dit? Ça vaut la peine. Si tout ce qu'il dit au début est mauvais, négatif et exprime de la jalousie et de l'amertume, à la fin on voit un homme qui dit « mais tu m'as saisi la main droite ». Ce n'est pas une bénédiction de pouvoir dire à Dieu « je suis toujours avec toi ». Ça c'est une véritable bénédiction, de savoir que Dieu ne nous abandonnera pas. Mes frères, ça peut nous arriver d'être épuisés. Ça peut nous arriver. Ce soir peut-être quelqu'un est épuisé. Ça peut arriver. Si Asaph s'est fait avoir... Laissez-moi vous dire que ça peut arriver à n'importe quel chrétien. Mais une chose est sûre, c'est que même si on est épuisé, même si on est fatigué, même si ça ne va pas, même si on dit des bêtises, même si notre témoignage sera terrible en disant « j'étais à ton égard comme les bêtes ». Quand on dit, des fois on dit « je suis bête », bon, on dit « je suis bête parce qu'on a oublié les clés, c'est pas on les a mis bon, ». Mais là c'est plus grave. Là c'est parce que quelqu'un s'est comporté vraiment comme un chrétien qui s'éloigne véritablement de Dieu. Mais mes frères et sœurs, ce psaume il est là pour nous montrer une chose, que même quand ça ne va pas, Dieu ne nous abandonne pas. Le fils prodigue, il a abandonné Dieu. Il a abandonné son père. Est-ce que le père continue à l'aimer? Mais ça, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que parce qu'ils ont abandonné Dieu, Dieu ne les aime plus. Dimanche, ça fait 2-3 dimanches, il y a une femme qui revient. Je l'ai bien accueillie, c'est vrai. On l'a bien accueillie. Et cette femme, il y a plus de 20 ans qu'elle a rétrogradé. Et elle a été heureuse de revenir dans l'église. Mais je suis sûr qu'elle va me dire, si vous saviez la bagarre que ça a été pour revenir dans la maison du Seigneur. Pourquoi ? Parce que quand on est fatigué, quand on est épuisé, quand on rétrograde, on a beaucoup de mal à croire que Dieu continue à nous aimer. Et bien cette histoire, elle nous prouve que Dieu continue à nous aimer, même si on passe par des moments difficiles. Dieu vous aime. Ce soir, vous devez dire, mais c'est vrai, j'ai une libre entrée dans le sanctuaire. Il faut que je fasse attention à ne pas me laisser piéger. Cet homme était intelligent. Je dis pas ça parce que c'est David qui l'a choisi. Mais quand même, c'est évident. On n'a pas pris les textes, mais ça vaut la peine de voir les textes où Dieu a choisi cet homme. Donc, le sanctuaire, l'église, c'est une chose, mais pouvoir continuellement entrer dans la présence de Dieu parce que Jésus a versé son sang, c'est tout ça. La libre entrée qu'on a dans le sanctuaire, c'est parce que Jésus a versé son sang, parce que la croix a été vécue, parce que Jésus a donné sa vie sur la croix. Est-ce que vous vous rendez compte? N'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment, vous pouvez entrer librement dans le sanctuaire. Ce n'est pas une bénédiction. Mon Dieu, quelle grâce. Et Asaph, là, il découvre vraiment ce qu'est vraiment la communion avec Dieu. Vous savez, il avait convoité des choses, mais les choses que l'on peut convoiter... Il avait convoité parce que certains pécheurs réussissaient mieux que lui. Mais là, il voit autre chose. Qu'est-ce qu'il voit? Il dit, tu me recevras dans la gloire. C'est pas une bénédiction, ça? Non, mais c'est la prospérité, ça. La méga prospérité. Est-ce que vous pouvez dire ce soir, mais ouais, c'est ce qui va m'arriver. Dieu me recevra dans la gloire. C'est pas de la richesse, ça? Parce que qu'un païen soit plus riche que vous, écoutez, on s'en fiche pas mal. Mais qu'un chrétien, lui peut dire ce que le gars riche à côté ne pourra pas dire, tu me recevras dans la gloire. Tu m'as saisi, je suis avec toi. Oui, les choses des riches, même notre argent à nous, ça sert à rien, ça disparaîtra de toute façon. Mais la bénédiction, tu me recevras dans la gloire, tu me conduiras par ton conseil. Vous n'avez pas envie d'être conduit par le conseil du Seigneur, hein? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Vous voyez, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Il le dit. Ça veut dire quoi, ça? Mon cœur et ma chair peuvent se consumer. Ça veut dire, ben, j'aurai d'autres épreuves. On en aura des épreuves physiques, psychiques. Est-ce qu'on en aura des épreuves? Est-ce que ça peut arriver que la chair se consume, Jérémy? Hein? Ça peut arriver. Ma chair et mon sang, mon cœur, j'aurai d'autres épreuves. Mais qu'est-ce qu'il dit? Dieu sera toujours... Vous avez vu la fin du verset 6? Regardez le verset 26. Nadège, je vais le lire, Nadège. Hein? Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. J'aurai des épreuves, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Oui, je comprends. Je comprends pourquoi Asaph va dire « m'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Quelqu'un aurait pu lui dire « mais Asaph, qu'est-ce que tu racontes? C'est ce que tu fais tout le temps ». Personne ne peut être voyé sa rétrogradation. Personne ne le voyait. Mais Dieu savait ce qu'il était en train de vivre. Et Dieu ne l'a pas laissé tomber. C'est la preuve, ce psaume est la preuve qu'on peut chanter des cantiques et ne jamais s'approcher de Dieu. Vous voyez? Et je discutais dernièrement avec la responsable d'une chorale qui a chuté justement, et qui comprenait ces choses. Parce que je crois qu'il faut faire attention. Béni soit Dieu pour la musique, béni soit Dieu pour les cantiques, béni soit Dieu pour les chorales, que tout ça soit le prolongement de notre communion avec Dieu, mais que ça jamais ne remplace une véritable communion avec Dieu. Béni soit le Seigneur pour le témoignage d'Asaph. Hein? Seigneur, quelqu'un a dit un jour, j'avais lu ça dans un livre, quelqu'un avait dit, mais quelqu'un ne sait pas bien hein, ce qu'il a dit, il avait dit, Dieu est un rapporteur. Il dit ce que les gens ont vécu. Dieu est un rapporteur. Je ne crois pas que Dieu est un rapporteur. Je crois que Dieu a voulu qu'on ait ces témoignages pour qu'on comprenne que nous aussi, on peut connaître les mêmes chutes, les mêmes difficultés, et que ce n'est pas du rapportage. Je crois que c'est une bénédiction que Dieu nous ait laissé ces témoignages d'hommes de Dieu, de prophètes qui ont été bénis malgré le moment où ils ont failli chuter. Voilà, on va fermer nos yeux et demander au Seigneur qu'il nous fasse réaliser que ce n'est pas une question de réflexion, c'est une question de s'approcher dans ce sanctuaire avec toute cette liberté. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous te bénissons pour chaque texte de ta parole qui nous permet de comprendre que rien, absolument rien ne peut remplacer cette liberté que nous avons de nous approcher de toi dans le sanctuaire, oui, au-delà de nos cantiques, au-delà de nos lieux de culte, au-delà des chants, au-delà des chorales. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui donne une véritable communion. Seigneur, et nous voulons véritablement, nous aussi, savoir que tu nous recevras dans la gloire, que tu seras toujours notre rocher. Oui, pour celui qui t'a accepté comme sauveur et comme Seigneur, tu deviens son rocher et son partage. Quelle joie, Seigneur, quelle joie, quelle grâce de savoir que tu nous recevras dans ta gloire. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu puisse vous accorder cette grâce de croire ce que vous venez de lire, que Dieu vous recevra dans sa gloire. Tu me recevras dans ta gloire. Que le nom du Seigneur soit béni.